du temps, qu'il aurait pu regagner du temps là. Donc on peut faire des analyses assez fines, on peut savoir quel site il a consulté. Donc ça, c'est le danger de ces logiciels d'évaluation de performance, c'est qu'ils donnent beaucoup d'informations.
Une surveillance à distance que le groupe 29, l'organe européen de protection de la vie privée, même s'il n'émet que des avis, a soumis à de très strictes conditions.
Il y a la possibilité, à distance, de déclencher les webcams, de contrôler les touches, enfin l'utilisation des couches, la fréquence des touches, etc. etc. Et donc c'est très intrusif.
Est-ce qu'on peut ?
Non. Alors, pour faire simple, le groupe 29 a émis des avis sur cette problématique-là en disant ce type de nouvelles technologies et ce type de choses sont complètement disproportionnées par rapport aux objectifs que vous voulez fixer. Il y a d'autres moyens de le faire. S'assurer que la personne est capable de mener à bien les tâches dans un délai déterminé.
Les ventes de ces logiciels de performance ont explosé en 2020, en Belgique comme ailleurs. Et même les ventes de logiciels théoriquement interdits, qui s'affichent ouvertement d'espionnage, ont été, selon les estimations, multipliées par 4 ou 5.
Je suis dans ce qu'on appelle le centre de commandement du logiciel. Il est installé aussi chez mon employé. Si je le configure bien, il ne verra pas que le processus est lancé. Et donc, il ne sait pas que je suis en train de l'espionner. Là, je suis dans l'illégalité la plus complète si je le fais vraiment. Et donc, j'observe ici, par exemple, qu'il a visité un certain nombre de pages web. Il aime bien les jeux vidéo, puisqu'il essaie de télécharger de nouveaux jeux vidéo à la mode. Et est-ce qu'il a utilisé les réseaux sociaux, puisque je peux avoir accès aux réseaux sociaux et savoir ce qu'il a fait, par exemple, sur Facebook. Dans les recherches, j'aurais très bien pu voir, bon, là, il ne l'a pas fait, qui recherchait le nom d'un autre employeur, éventuellement pour nous quitter et changer d'employeur, ce qui peut être une donnée intéressante aussi.
Ce que nous avons pu voir dans beaucoup d'entreprises que nous avons accompagnées là-dedans, ce n'est pas le recours à des procédés illégaux. C'est plutôt une tendance ou une tentation de multiplier les types de contrôles. C'est donc dire, voilà des objectifs atteints, mais ensuite le coup de fil, la réunion, le mail qu'on envoie, et ensuite encore, comme si ça n'était pas assez, les feuilles de présence que l'on remplit en disant, ben, voilà sur mon calendrier, voilà ce que je fais à tel moment, voilà ce que je fais à tel autre moment, etc. Et donc là, on a trois couches, en quelque sorte, de contrôle. C'est évidemment ce qu'il faut éviter si on veut arriver à une intégration harmonieuse des modes de travail à distance dans l'entreprise.
Alain Zanon.
Alain Zanon, un des pionniers du télétravail en Belgique. Il en fait depuis 1999. Il travaillait et travaille toujours dans une grande entreprise de télécommunications. Nous l'avons retrouvé. Et il s'en souvient, ses débuts ont été les mêmes que pour ceux qui s'y lancent aujourd'hui.
C'était plaisant pour la simple et bonne raison que ça permettait d'organiser sa journée un peu comme on voulait. Bon, du moment que le travail était fait, l'employeur n'était pas difficile. Donc on pouvait, comme je le faisais, aller de temps en temps conduire son enfant à l'école. Déjà, à ce moment-là, c'était un avantage.
Pourtant, technologiquement, ce n'était pas encore vraiment ça.
Les réunions à distance, non, ça ne se faisait pas. Et même au niveau communication GSM, ce n'était pas la même chose non plus. Donc c'était beaucoup plus difficile. On chattait parfois par des petits outils de chat, la messagerie, donc messagerie mail, mais pas d'outils collaboratifs. Et c'était plutôt une connexion point à point, donc avec un seul collègue, tandis que maintenant, c'est du multipoint, où on peut avoir une dizaine, une vingtaine, une centaine, voire même des milliers de collègues connectés sur la même réunion.
Des connexions dans tous les sens. Très bien pour l'organisation du travail. Mais les cyberdélinquants ont flairé l'aubaine. Les attaques informatiques, celles qui bloquent une PME pour la rançonner, se sont multipliées en 2020. Et le nombre d'attaques réussies a quadruplé en un an.
C'est de plus en plus courant et ça se passe généralement par phishing. Hein. C'est vraiment l'email qui vous est envoyé, cliquez sur ce lien. Candidement, la personne clique sur le lien et c'est parti. Donc il ne faut pas s'imaginer que ce sont des attaques, la plupart du temps, sophistiquées. 70-80% des attaques qui mettent les entreprises à plat viennent de principes vraiment. Quand on les décrit, on se dit mais c'est pas possible d'être tombé dans un piège, d'avoir cliqué sur ce lien. Eh bien si.
Et le télétravailleur est bien une cible privilégiée.
Quand vous êtes à la maison, il y a aussi l'émotionnel qui joue et qui amplifie. Par exemple, chose extrêmement simple, vous recevez un email qui vous paraît un peu bizarre. Ben, si vous avez quelqu'un dans le bâtiment à côté ou à la pause café, vous pouvez lui dire, est-ce que tu as reçu le même ? Le patron nous demande de tous nous connecter et de redonner notre code personnel. Est-ce que tu as reçu ça ? Et les autres employés disent, ben non, c'est probablement ciblé sur toi. Mais si vous êtes le soir seul à la maison, ben, émotionnellement, on est un peu déconnecté et ça augmente le risque.
Démonstration avec Fabien Duchesne, chercheur en cybersécurité.
Le dernier mail reçu, ce serait une prescription électronique pour un vaccin Covid gratuit. Je vais donc enregistrer ce fichier sur mon ordinateur. Je vais cliquer deux fois dessus pour l'ouvrir. Et là, j'ai commis l'erreur, c'est terminé. Vos fichiers sont toujours là, ils sont juste illisibles. Et il faut payer une rançon souvent élevée pour la récupérer. Ici, mon PC est en péril, mais toute l'entreprise pourrait être impactée.
On a pu renforcer certaines politiques de cybersécurité au sein de l'entreprise. On a pu prendre aussi conscience, et c'est le plus important, que le point d'entrée du pirate, dans presque tous les cas, c'est le point faible et c'est l'employé.
L'employé, donc le télétravailleur, responsable de ce qu'il fait avec ses outils de travail, même à la maison, et qui pourrait donc avoir à répondre d'une maladresse, d'un clic malencontreux. Arrivé là, on s'est reposé la question. On entend partout, on ne reviendra pas en arrière. Mais en est-on si sûr ? Selon certains coups de sonde, 70% de ceux qui ont télétravaillé en 2020 sont certes en manque de contact, mais resteraient demandeurs. Les employeurs, eux, entrevoient des économies s'il leur faut à l'avenir moins d'espace de bureau, mais semblent un peu moins chauds, se demandant comment contrôler le travail. 3800 d'entre eux, répondant à une enquête il y a quelques semaines, craignaient en moyenne un impact négatif sur la productivité des employés. Un beau débat en perspective dans les entreprises, parce que les télétravailleurs ont plutôt eu l'impression inverse.
C'est clair qu'on travaille beaucoup plus. On prend moins de pauses, on est seul, la concentration est plus élevée.
Il n'y a rien à faire, il faut poser les limites. Parce que si on ne les pose pas, à un moment donné, on se laisse submerger. C'est-à-dire qu'après 22 heures, non, 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 à 22 heures, je me repose, j'ai besoin de ce temps de repos aussi pour être productif pour le lendemain.
Vous disiez, le premier réflexe qu'on a, c'est travailler plus. Ça se calme un moment ?
Oui, tout. Alors, personnellement, ça s'est calmé. Maintenant, ça fait tellement d'années que maintenant, ok, je me suis astreint à un horaire, je rentre dans le bureau, je commence à travailler, je sors du bureau, j'arrête de travailler.
Se couper du travail, c'est le fameux droit à la déconnexion, qui sera à aménager, entreprise par entreprise.
Je crois qu'on est passé, et on est nombreux, quelle que soit la profession, à être passé un peu de métro-boulot-dodo, comme on dit, à boulot-dodo. Et ça, c'est la grande difficulté. Et je crois que le droit à la déconnexion est une priorité.
Le fameux droit à la déconnexion, à ça, j'y tiens. À ça, c'est catégorique. Je ne dis pas que tout le monde arrive à se déconnecter. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais de toute façon, moi, en tant que représentation syndicale, évidemment, le droit à la déconnexion doit être une base solide d'un accord avec l'employeur.
Autre point de friction, les éventuelles compensations financières. Les employeurs devront-ils mettre la main à la poche s'ils veulent maintenir une part de télétravail ?
Il y a effectivement, dans les textes, une obligation de l'employeur d'intervenir dans la mise à disposition du matériel informatique. Il doit intervenir également dans les frais de connexion, etc., et télécommunications.
Mais les télétravailleurs se sont aperçus cet hiver qu'il n'y a pas que le matériel informatique.
C'est coûteux. C'est coûteux parce que vous soyez un ou deux ou cinq à la maison, l'électricité est identique et le chauffage aussi. Et donc, quand vous êtes en télétravail, forcément, l'employeur ne va pas intervenir pour vos factures d'électricité et de chauffage. Donc oui, ça coûte plus cher.
Pourtant, les entreprises pourraient intervenir. Le fisc accepte un dédommagement exonéré d'impôts jusqu'à 129 euros par mois. Quant aux autres acquis liés au travail...
Le chèque repas. Quand on est en télétravail, on a encore droit à ces chèques repas ?
Tout à fait. La législation sur l'octroi des chèques repas fixe un certain nombre de conditions et une des conditions, ce n'est sûrement pas celle de dire qu'il faut en plus travailler dans les locaux de l'entreprise. Non, 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 non. Chèque repas, la voiture de société, vous pouvez maintenir la voiture de société malgré le fait que vous télétravaillez.
La voiture de société, un avantage que certains verraient bien déclassé par le télétravail.
Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est package salariaux vont devoir peut-être être aussi repensé avec cette nouvelle réalité. Parce que, par exemple, j'ai une voiture de société et ma voiture est garée et elle reste là. Et ça, c'est un avantage qui fait que je vais peut-être gagner un peu moins en net parce que j'ai cet avantage-là au niveau salarial. Mais cet avantage-là, depuis mars, il n'est pas aussi important qu'avant.
Il ne nous reste, à l'issue de notre plongée dans le télétravail, qu'une seule certitude. le travail hors entreprise, ce ne sera plus 5 jours sur 5.
5 jours semaine, il n'en est pas question ?
Non, 5 jours semaine, c'est clairement pas recommandé. À nouveau, l'importance de ces contacts, ils sont trop importants. On ne peut pas sacrifier finalement ça. Et donc là, il y a un équilibre à trouver pour qu'on ait les avantages du télétravail et les avantages du présentiel au bureau.
5 jours semaine, certainement pas. On ne reviendra pas là-dessus. C'est certain que 5 jours semaine, les contacts humains, je pense que la crise l'a montré, c'est ça dont tout le monde a besoin, hein, de se toucher, de se parler, de se voir, de se sentir même. Donc non, certainement pas.
Je pense que 3 jours semaine de télétravail, c'est l'idéal. Pour vraiment avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie sociale.
Quand il ne sera plus imposé, le télétravail devra donc être négocié.
Je crois que ce que l'expérience grandeur nature que nous venons de vivre a permis d'apprendre, c'est que les modalités du télétravail doivent faire l'objet de négociations. Qui y a droit, quel job peut être télétravaillé ou pas. Et ensuite, si on télétravaille, est-ce que c'est un, est-ce que c'est deux jours, est-ce que c'est récurrent, toujours le même jour, ou est-ce que c'est au choix, etc. Donc c'est toutes ces modalités-là qui doivent, me semble-t-il, faire l'objet d'une discussion.
De cet équilibre-là qui s'installera, une fois que la situation sanitaire n'imposera plus 5 jours semaine, dépendront ce que certains appellent déjà les effets secondaires du télétravail. Notamment sur les petits commerces, dans les quartiers de bureaux, où moins de travailleurs feront moins de clients à midi. Sur les services externalisés aussi, dans les entreprises, nettoyage ou cafétéria, moins de monde dans les bureaux, moins de travail. Sur le marché de l'immobilier, à Bruxelles, le marché des bureaux progressait chaque année. Il s'est tassé en 2020. Ou encore sur la mobilité. Le bureau du plan évoque une diminution d'une 15% dans les grandes agglomérations, à Bruxelles notamment. Ce sont ces indicateurs-là qui nous diront en 2021 si l'année du Covid a été celle d'un simple ajustement ou d'un bouleversement du travail.